Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, premier numéro de l'année 2022 avec un invité, puisque la semaine dernière, 1er janvier, nous vous avons proposé une rétrospective des grands moments des émissions de 2021 et je suis très heureux de l'accueillir parce que c'est un petit bout de mon enfance avec nostalgie que j'accueille aussi devant ce micro, moi qui suis né dans le Haut-Doubs et j'ai ce point commun avec elle, mais je n'ai pas les talents artistiques qui sont les siens. C'est Lola Sémonin que j'accueille aujourd'hui, première invitée 2022. Bonjour Lola.
Bonjour Yannick.
Alors Lola, nous nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant, c'est la raison pour laquelle nous allons nous tutoyer.
Voilà, je veux bien.
Je le précise pour nos auditrices et auditeurs que je salue et à qui j'adresse également tous mes voeux. Je l'ai fait déjà l'année dernière. Bonne année à toi Lola.
Oui, joyeuse année à toi, à tous les auditeurs, les auditrices. Et puis je voulais te dire par rapport à la nostalgie, j'aime bien cette phrase qui dit que la nostalgie, c'est l'enchantement du passé.
Ah. Et autre vers de Paul Éluard, c'est en lien avec les vœux, ce que l'on peut souhaiter à toutes celles et tous ceux que l'on aime. Il y a, je voudrais juste citer ces deux vers de Paul Éluard et ensuite on parle de ton actualité éditoriale et de tes romans. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Je trouve ça très joli.
Très joli.
Paul Éluard.
Très joli.
Lola Sémonin. Lola, je pense qu'un très grand nombre des personnes qui nous écoutent en cette fin de matinée sur Radion te connaissent plus sous le nom de la Madeleine Proust. Parce que il y a 40 ans, en 1982, la jeune institutrice que tu es, mais qui est aussi une curieuse, une gourmande de mots, et qui est aussi, et qui a été très à l'écoute du monde paysan, de ce Haut-Doubs horloger et forestier qui t'a vu naître, tu te lances en créant ce personnage de la Madeleine Proust. Alors, on ne va pas en parler trop longuement, quand bien même elle le mériterait, parce que désormais tu es écrivain et tu as écrit, romancé la vie de Madeleine Proust, qui était au départ un personnage de théâtre, qui maintenant est un personnage de papier.
De roman, un personnage romanesque.
Trois romans, donc La Madeleine Proust, une vie, le tome 1, Quand j'étais petite, paru chez Pygmalion, c'est l'équivalent de Flammarion, hein, c'est une...
Oui,
c'était en 2013.
C'est une demande de Flammarion qui me dit « Pourquoi vous n'inventez pas une vie à la Madeleine ?» Et quand j'ai commencé ce travail, j'imaginais pas une seconde que ça allait me prendre 10 ans de ma vie. Et au bout de 300 pages du premier roman, je m'aperçois qu'elle n'a que 8 ans. Parce qu'évidemment, je vais toujours à la recherche des petites Madeleines de Proust, d'éveiller les cinq sens, d'ouvrir la mémoire du lecteur, comme je l'ai fait pour mes spectacles. Et donc, je les appelle, je leur dis, écoutez, il y a un problème parce qu'elle n'a que 8 ans et j'en suis à 300 pages. Est-ce que je pourrais en faire plusieurs? Et ils m'ont dit oui. C'est pour ça que je suis entrée dans cette saga, pas à pas, au fur et à mesure.
Alors, 2013, donc, paraît Quand j'étais petite.
Oui.
Donc, ça va de 1925, année de naissance de Madeleine Bobillet.
Oui, c'est ça.
Plus tard, épousera un Proust et deviendra Madeleine Proust de Derrière les Gras.
Oui.
Village fictif. Tome 2.
Juste une interruption. Rappelle-toi de mon spectacle. Comme ce mot Bobillet faisait beaucoup rire mes copains de Paris, la Madeleine, elle disait, au moins pour m'endormir, je compte pas les moutons, je compte les Bobillets.
Mais nous, on va compter les romans de Lola Sémonin maintenant. Alors, le tome 2, Ma drôle de guerre, 1939-1940, paru chez Pygmalion en 2015,
c'est ça.
Plus récemment, le tome 3, donc, qui amène aussi notre petite Madeleine Bobillet, elle a 16 ans, et elle occupe un emploi de boniche, dit-elle, dans une famille très, un couple très bourgeois, dans le 16e arrondissement de Paris, sous l'occupation.
Exactement.
C'est le tome 3. Et alors donc, prochain roman, août 2022,
alors,
cette année.
Août 2022, la suite et la fin sort. Et se terminera donc par le mariage avec André Proust, puisque je le racontais dans mes spectacles.
Alors, Lola Semonin, née à Morteau.
Oui, le 8 avril.
Un temps institutrice.
Oui, alors ça, c'était le vœu de ma mère, hein, c'était le choix de ma mère, je dirais même, parce qu'elle pensait qu'une femme devait être indépendante financièrement. Et pour elle, que je sois instite, c'était réaliser son rêve qu'elle n'avait pas pu réaliser à cause de la guerre. Et puis aussi, oui, voilà, voir sa fille dans un métier de sécurité, avec une bonne retraite. Donc moi, j'ai été instite un peu malgré moi, quoi. Mais j'étais préparée depuis toute petite, où ma mère répétait, elle sera institutrice. Mais comme... Moi, j'aime bien, quand on a des rêves d'enfant et qu'on continue de les tenir dans la vie, quel chemin détourné la vie va nous faire prendre pour que tout d'un coup, on y arrive. Et en fait, c'est parce que j'ai fait la pédagogie Freinet que j'ai demandé à un petit village dans le Haut-Doubs et que j'ai rencontré le monde paysan.
Alors, ce monde paysan... Tu l'as écouté et tu l'as fait parler. Mais tu n'avais pas spécialement au départ l'idée d'utiliser le langage, les expressions populaires du Haut-Doubs pour un personnage. C'était une curiosité sociologique, culturelle.
Voilà, je le découvrais. Alors dès le premier jour, je dis « Oh, il fait beau !» Puis le paysan en face, il me fait « Oh, mais c'est parti pour rester hein. !» Puis après, il me dit « Vous viendrez voir notre nouvelle cuisine incarcérée. » Donc moi, je commence de noter ces expressions. Puis je les racontais à Gérard. Et moi, comme
donc
j'allais...
Gérard, ton compagnon à l'époque.
Gérard Bolduchaumont, oui. Et comme à l'époque, j'allais au conservatoire, il fallait surtout lisser l'accent. Donc moi, je n'arrivais pas à imiter les paysans. Je n'arrivais pas à forcer la voix. Et c'était Gérard qui déconnait toujours. Quand on était chez des potes, il disait « Bon, allez, maintenant, on va rentrer pour traire. On va se ramasser. » Et il me faisait beaucoup rire. Et c'est au conservatoire que, en fait, il y avait quand même 30 ans de frustration, hein, puisque depuis enfant, je rêvais d'être sur scène, d'écrire. Et je pense que cette frustration a fait que mon vœu le plus cher, c'était de jouer toute seule. Et il fallait que je trouve un personnage. Donc je voulais interpréter un personnage seul. Alors j'ai essayé une bourgeoise, une clocharde, une ouvrière. Et il n'y avait rien qui me plaisait. Et que, comme je faisais beaucoup de réunions avec les parents d'élèves paysans dans ma classe, où ils amenaient le gâteau de ménage, l'agneau, et qu'ils commençaient à me raconter leur vie à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai eu le flash, j'ai réalisé qu'ils étaient sous mes yeux, qu'il fallait que je crée une paysanne. En plus, dans les années 80, on n'en parle pas du monde paysan. Je ne dis pas qu'on en parle plus aujourd'hui, malheureusement non, mais c'était encore pire. Et quand j'ai dit ça à Gérard, il avait toujours des idées très clairvoyantes. Il m'a dit « Alors, il faut l'appeler Madeleine Proust ». Tout de suite, il a vu qu'il fallait faire le lien avec les petites Madeleines de Proust qui sont des déclencheurs d'images, de souvenirs qui viendraient illuminer la mémoire des spectateurs.
Et donc ce personnage de la Madeleine Proust, donc, naît en 1982, modestement, et ensuite alors tu fais des grandes scènes, tu deviens une figure nationale.
Ah oui, ça
on
va très
voit,
très vite.
On te voit, on t'entend dans les grands médias, la presse écrite aussi salue la sincérité de ton personnage, sa drôlerie, que ce soit le journal Le Monde ou des hebdomadaires comme Le Nouvel Obs, même Guépier, j'ai même lu un petit article dans Guépier
ah oui,
à l'époque. Proustouflante,
ils avaient dit. mais en fait... Il y a un monsieur de Morteau qui vient de Montpellier, et c'est souvent les gens qui viennent d'ailleurs qui sont très attachés au Doubs. Et lui, il a appelé Europe 1 pour dire il y a une fille, c'est formidable ce qu'elle fait, il faut absolument la faire passer à la radio. Il a appelé Pierre Bonte qui m'a fait venir, Drucker m'a entendu, et un an plus tard, moi je passais à Champs-Élysées. Il n'y avait que deux chaînes à l'époque. Donc en 83, tu avais 20 millions de spectateurs. Et je suis passée des petits théâtres de village dans lesquels je jouais, au gymnase, et puis après très vite à Paris.
Dis-nous Lola, est-ce que tu as joué la Madeleine Proust à l'étranger ?
Alors j'ai joué en Afrique, j'ai joué en Suisse, en Belgique, et malheureusement pas au Québec où j'aurais rêvé d'aller. Au Québec, elle aurait été adorée, cette Madeleine.
Alors ta modestie dut-elle en souffrir ? Nominée 3 fois au Molière, et puis... Information qu'il ne faut pas omettre de partager avec nos auditrices et auditeurs, c'est que tu es membre de l'Académie Alphonse Allais.
Ah oui, oui.
Une forme alors, de reconnaissance aussi.
Ah oui, oui. Puis alors une bonne bande de zozo, comme on dit.
Alors, te voilà maintenant écrivain. On a dit, on t'a proposé, c'est la maison Flammarion t'a proposé de coucher sur le papier la vie de Madeleine Proust. Tu avais beaucoup entendu les paysans, leurs expressions. Évidemment, tu te plonges dans la vie d'une femme née en 1925, époque que tu n'as pas connue, puisque tu es bien sûr beaucoup plus jeune. On peut dire à quel moment tu es née ?
Moi, je suis née en 51, non. Non, non, je suis très fière d'avoir 7-0.
Et est-ce que tu as recueilli aussi des histoires de famille concernant les années 30, la montée des périls fascistes, parce qu'il en est un petit peu question, l'arrière-fond politique, la politique française, mais aussi européenne. Quand tu parles et quand tu envoies la petite Madeleine Bobillet, 16 ans, cette petite paysanne du Haut-Doubs qui remplace en plus une boniche bretonne que les patrons appellent un peu gentiment Bécassine, mais là c'est une petite franc-comtoise qui arrive. Tu as aussi enregistré des témoignages authentiques, par exemple, de paysannes qui étaient réellement parties à Paris sous l'occupation en tant que servante dans une richissime famille.
Alors, pendant toute ma vie, depuis que j'ai créé la Madeleine, je n'ai cessé d'interroger les gens. Déjà pour créer la Madeleine, j'ai fait un travail d'ethnologie. J'ai passé 2 ans à interroger les femmes de paysans, une cinquantaine. J'ai recueilli évidemment des morceaux de leur vie. J'ai aussi recueilli des expressions d'ici, leur façon colorée de parler. Et tout ça, je l'ai gardé. Donc quand j'ai commencé d'inventer une vie à cette Madeleine, j'ai fait un travail d'historien. C'est-à-dire qu'à nouveau, pendant 2 ans, j'ai lu plus de 60 livres sur la guerre de 40. Sur le monde paysan, j'en avais déjà lu pas mal pour créer mon personnage. J'ai regardé énormément de films, j'ai regardé beaucoup de documentaires, parce que maintenant on a des documents extraordinaires sur toutes ces périodes. Et puis j'ai commencé au fur et à mesure de prendre des notes, au fur et à mesure de mes lectures, pour imaginer ce qu'elle allait vivre, ce qu'elle allait penser, ce qu'elle allait traverser, ce qu'elle allait rencontrer. Et après j'ai commencé de construire mon histoire. Et évidemment, dans toutes ces paysannes que j'ai interrogées, il y en avait beaucoup qui me disaient « Oh, mais moi, je suis été bonne. Ah, je suis été bonne à Paris, moi. Ou je suis été bonne à Besançon. » Et donc, j'avais gardé toute cette matière que j'avais recueillie. Donc, après, j'ai fait toujours ce même travail de puzzle que pour mes spectacles, d'aller piocher ça et là, et puis de construire comme on construit un plat ou un habit, rajouter des ingrédients pour arriver à ce que je souhaitais, et tout en mêlant à la fois la truculence des dialogues. Moi, j'aime qu'on rit et qu'on pleure, comme dans mes spectacles. Donc, amener du rire, amener de l'émotion, et puis jouer avec la poésie, parce que les paysages sont peut-être les personnages les plus importants du roman, puisque la vie des paysans, elle est rythmée avec les saisons. Et j'adore décrire les paysages. Et là, chez moi, dans mon bureau, je lève les yeux, je vois un ciel chaviré, et puis je commence de le décrire. J'adore ça. J'adore l'écriture, c'est un bonheur infini.
Alors Lola, si tu le veux bien, on va marquer un premier intermède musical. C'est toi qui as choisi le titre que nous allons entendre. On l'offre à nos auditrices et auditeurs et nous nous retrouvons avec Lola Semonin d'ici quelques minutes. C'est la première invitée de ce premier wagon livre de l'année 2022. A tout de suite.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie, en haron de plein ciel qui rentre à Paris. Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Monique, Frégate, Transfluide, Vedette, Abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault, Roger, quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Lola, c'est Monin qui nous accompagne en cette fin de matinée à bord de votre émission littéraire sur Radion. Je rappelle les titres des trois romans actuellement disponibles. Nous attendons le quatrième tome de La vie de la Madeleine Proust, donc sorti prévu en août 2022. Le tome 1, donc La Madeleine Proust, une vie 1925-1939, quand j'étais petite. Le tome 2, 1939-1940, Ma drôle de guerre. Le plus récent, paru l'année dernière, donc c'est notre petite Madeleine Bobillet, Sous la botte, hein, 1940-1941. Une petite paysanne du Haut-Doubs qui vient d'un milieu extrêmement modeste. Parce que, en fin de compte aussi, ce que montre, outre les aspects culturels, sociologiques, historiques, ce que montre aussi lors de la venue de la petite Madeleine Bobillet à Paris, c'est un choc culturel, mais c'est aussi un choc social.
Ah oui, c'est un choc de classe. Hein.
De classe,
c'est ça. On avait mis en exergue du Thomas une phrase qu'une paysanne m'avait dit et que je cite d'ailleurs dans mes spectacles, de la Madeleine Proust. On était pauvres, mais comme on ne le savait pas, on n'était pas malheureux. Et ça, c'est un peu le terreau sur lequel j'ai construit le Thomas. Et puis pour le tome 2, je me suis aperçue que les historiens ne s'attardaient absolument pas sur la drôle de guerre. Et moi, j'ai imaginé que tous ces soldats qui arrivent dans les granges, d'ailleurs, André Proust va arriver à ce moment-là. Ça, je le disais dans mes spectacles.
Donc, le futur mari de Madeleine. Hein,
voilà, le futur mari.
Qui est soldat.
Va s'appeler Madeleine Proust. Et donc, je me suis dit, pour ces gens qui ne sont jamais sortis de le petit village de derrière les Gras, ça va être une aventure extraordinaire. Tous ces soldats qui viennent de toute la France et qui vont rester là de septembre 39 à mai 40. Voilà pourquoi le tome 2 ne traite que de la drôle de guerre, mais avec plein d'aventures qui vont arriver pour ces paysans, pour la Madeleine, à découvrir.
Ce qui est très duel dans ton dernier roman, c'est l'aspect historique, ce poids de l'occupation, c'est aussi le régime de Vichy, c'est Pétain, c'est les débuts de l'antisémitisme, les rafles, les arrestations de premiers résistants, le courage de certaines Françaises et Français face à l'occupant. Et puis il y a toujours les drôleries. Alors, le choc culturel et social, lorsque notre petite Madeleine arrive chez les Villemay, famille très riche, puisque lui est un fondé de pouvoir à la Banque de France.
Exactement, puis elle est là de la fortune aussi, oui.
Alors là, c'est très amusant, parce qu'il y a à la fois cette petite paysanne qui n'a connu que la vie rustique et modeste à la ferme et qui découvre la porcelaine, comment dresser la table, un appartement immense et puis un mode de vie bourgeois auquel elle n'a jamais été confrontée.
Alors ça, ça a été un vrai régal. Alors j'ai relu Martin Eden parce que il y avait cette arrivée dans un monde comme ça très riche. J'ai regardé beaucoup de films sur l'année 40 où on voit les décors de ces gens bourgeois. Et puis j'ai adoré écrire ce décalage, me mettre dans la peau de cette petite Madeleine qui elle est époustouflée et à la fois très impressionnée mais apeurée aussi par toute cette richesse. Et puis alors eux se mettre aussi dans la peau de ces gens-là pour lesquels c'est tout à fait normal d'avoir des colliers en diamant, des services de table.
Des porcelaines précieuses.
Oui,
un chat qui est teint en rose.
Ah oui, le chat est teint en rose. Elle dit, c'est quoi ? Ben voyons, c'est un chat. Il sera toujours rose. Mais enfin, quelle idée. L'année dernière, il était vert.
Lola Semonin, tu fais dire à Madeleine, lors de son arrivée chez les Villemay à Paris, 16e arrondissement en 1941. J'avais aussi l'impression d'être entré dans un pays étranger où on parle une autre langue que la mienne. Là aussi, il y a un choc culturel. C'est là aussi où la petite Madeleine découvre une bibliothèque superbe, car elle aime les livres.
À la découverte de la bibliothèque, elle ouvre la porte, elle ne comprend pas tout de suite en quoi les murs sont faits, parce qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Elle a deux livres, elle a gagné la guerre des boutons en prix de français, et une petite Suisse lui avait offert Les Misérables.
Il y a Heidi, la lecture d'Heidi.
Elle avait lu Heidi, oui, c'est vrai.
Et sans famille qu'elle emporte
et sans famille, évidemment, que Constant lui avait offert, son premier amoureux. Et là, le choc de s'apercevoir que des murs peuvent être remplis de livres, parce qu'elle imaginait même pas que ça puisse exister. Et en plus, elle pensait que tous les écrivains étaient morts.
Oui. Et là, elle en rencontre un vrai. Hein.
Ah oui, là,
la personne de M. Pasquier, c'est ça.
Et ça va être vraiment un choc aussi, parce qu'il parle, il a un langage assez châtié. Et par rapport à ce travail que j'ai fait à nouveau sur la langue, ce travail de linguistique, par rapport au langage très soutenu de ce milieu, et par rapport à son langage à la fois régional, à la fois très populaire de la Madeleine, alors elle a beaucoup de remontrances de sa patronne qui la reprend. Elle ne comprend pas, et à un moment elle dit, mais enfin, si moi j'apprends à parler parisien, quand je vais rentrer chez nous, ils ne vont pas me comprendre. C'est le serpent qui se mord la queue.
Et puis il y a aussi ce que découvre Madeleine, c'est indirectement la langue allemande à travers la présence de l'occupant. La langue allemande, elle parle de leur langue de teuton, cette voix de rabot martelée de sons de forge.
Oui, c'est ça. Ben oui, tout le monde en parle de ça. Et que moi, je me rappelle quand j'interrogeais les paysans pour créer la Madeleine, ils me parlaient tous de la guerre. Sans arrêt, ils revenaient à cette guerre, à cette occupation. Et moi, à l'époque, j'avais 30 ans, mais je n'avais pas pris conscience à quel point ça peut marquer les esprits d'avoir vécu 5 ans d'occupation avec des privations de liberté, bon, qu'on connaît un peu aujourd'hui quand même sous d'autres bottes. Mais et c'est seulement en travaillant sur cette époque-là que je me suis rendu compte à quel point ça peut à la fois traumatiser, mais à la fois aussi nourrir, enrichir. Parce que pendant l'occupation, il faut sans arrêt inventer. Il faut inventer des nouveaux plats, inventer des nouveaux ingrédients, des combines. Et ça a été une période très très riche, en même temps douloureuse, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers, mais c'était une période qui était très très riche. Et ça, je voulais aussi qu'on le sente. Alors évidemment, chez les Villemais, on ne manque de rien. La Banque de France, vous savez qu'à l'époque, la Banque de France avait des salles entières remplies de caviar, de champagne, qui étaient là à la fois pour les Allemands, à la fois pour les administrateurs de la Banque de France.
Bon, les Villemais, cette famille, lui, fondée de pouvoir, a de l'argent et ils peuvent acheter de la viande assez aisément.
Ah ben, c'est-à-dire que pendant l'occupation, il faut bien comprendre où on a des tickets de rationnement, on fait la queue. Et s'il reste de ces ingrédients, on en a. Ou alors on a de l'argent et là, on a pratiquement tout ce qu'on veut.
Alors d'ailleurs, lorsque les Villemais ne sont pas là, notre petite Madeleine écoute des recettes de cuisine qui sont données à la TSF. Hein. Après un cours de cuisine qui donnait la recette du pâté de foie sans foie avec des biscottes écrasées, des oignons, du viandox et un œuf, une jeune femme a donné d'autres combines. Pour faire les gâteaux, remplacez les œufs et le beurre par des pois chiches. À la place du sucre, achetez en pharmacie de la saccharine. Ajoutez autant de maïzena que d'œufs pour une omelette, de la sûre de bois à la farine pour faire le pain.
Voilà.
Ça aussi, c'est très bien rendu. Les difficultés pour se nourrir. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de Madeleine chez les Villemais parce qu'elle, on lui donne de l'argent.
Il faut composer quand même parce que quand il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de sucre, hein, même pour les riches. Il ne faut pas croire, je disais tout à l'heure qu'ils pouvaient obtenir tout ce qu'ils voulaient. Non, même avec de l'argent, si elle va à la boucherie pour acheter un rôti, mais qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Il y avait quand même des pénuries. Il y avait des jours sans viande, il y avait des jours sans pâtisserie. Par contre, il y a des pâtisseries comme à Paris où vont se fournir les Allemands, et là, il y a beurre, il y a sucre à volonté.
Chez La Durée.
Mais c'est très cher, chez La Durée, chez Le Nôtre.
Et Lola, je reviens d'ailleurs, tu parles de beurre. À un moment, Madame Villemais, donc la patronne de Madeleine, dit à Madeleine, pensez à acheter du beurre, parce que nos invités aiment en mettre dans le café. On mettait du beurre dans le café ?
Oui, c'est quand les Allemands viennent, je crois.
Il me semble
parce
que c'est pour les Allemands.
Des Allemands. Parce que je joue beaucoup sur l'ambiguïté. Est-ce que les Villemais sont des collabos avec les Allemands ? Puisqu'ils invitent des Allemands à leur table, à leur réception. Et alors les Allemands, quand ils sont arrivés en France, il faut savoir que ces pauvres soldats, ceux qui n'étaient pas des nazis, enfin ceux qui étaient des nazis étaient complètement dans la propagande. Hein. Est-ce qu'ils avaient encore un cerveau pour réfléchir ? Je pense que non. Et puis la plupart des Allemands qui sont arrivés là, c'était des Autrichiens. Et on les a fait marcher pendant des mois et des mois mal nourris. Et quand ils sont arrivés dans le Houdou, et qu'ils ont découvert les modes de beurre, il y en avait, ils se faisaient des sandwichs entre deux plaques de chocolat et un énorme morceau de beurre. Ils étaient en carence, ils ont souffert énormément. Parce que l'intérêt d'être écrivain, c'est qu'on doit se mettre en empathie avec toutes les couches sociales et avec tous les personnages de nos romans. Il faut aussi que je me mette en empathie avec ces nazis, avec ces Allemands, avec ces occupants, pour bien les comprendre et pour bien en parler.
Et pour nous faire rire parfois aussi.
Et aussi, oui, bah pour trouver, pour trouver des bons mots et des situations, évidemment, pour faire rire le lecteur et pour me faire rire moi aussi. Parce que finalement, on écrit le livre qu'on aimerait lire. Et quand je l'ai relu pour passer au tome 4, c'est vrai qu'il m'émeut, qu'il me fait rire, que ça me touche. Et c'est ce que j'espère qu'il sera... que j'espère que le lecteur y ressentira la même chose.
Il y a de très bonnes trouvailles à un moment, tandis que Monsieur Vihimet reçoit deux officiers allemands au dîner. C'est là où Madeleine est un peu effrayée en pensant que les Vihimet frétillent avec l'occupant. De plus, il ne manque de rien sur la table, donc c'est vraiment la France, une France heureuse, en tout cas privilégiée. Et à un moment, Monsieur Vihimet offre un cigare à un des deux officiers allemands.
Ah oui.
Et l'officier allemand dit « Je suis un gros fumier
oui. ».
Et Monsieur Vihimet dit « Non, vous êtes un gros fumeur ». C'est très drôle. Là, on joue sur la paronomase. Il y a beaucoup, tu joues beaucoup sur la paronomase, c'est-à-dire des mots qui ont une proximité phonétique. Il y a la nièce des Vihimet.
Voilà, qu'ils le mettent en défaut, du
oui.
coup.
La nièce des Vihimet est Zazou. Peut-être pourrais-tu rappeler ce qu'a été cette génération adolescente, jeune adulte
voilà,
qui se déclarait
plutôt,
Zazou?
Voilà, c'était plutôt des gosses de riches, hein, et des étudiants. Et donc, ils ont décidé de prendre le contre-pied. Un peu comme aujourd'hui, il y a des manifs anti-pass. Et bien, à cette époque, il y avait des mouvements anti-réglementation de Vichy. Donc c'était une pénurie de tissus, on demandait d'en utiliser le moins possible. Eux mettent des grandes vestes d'hommes, des pantalons trop larges.
Multicolores en plus.
Les chaussures, ah oui, avec des carreaux, avec des rayures. Les filles se laissent pousser les cheveux alors qu'il faut couper ses cheveux pour les vendre parce qu'on fait des habits avec les cheveux. Ils se promènent par exemple sur les Champs-Élysées avec deux cannes à pêche. Et d'ailleurs, elle essaie d'expliquer à la Madeleine, ben oui, deux cannes à pêche, De Gaulle. Et ces jeunes-là vont être de plus en plus réprimés au fil du temps, mais il va y avoir plein de chansons sur les Zazous qui vont sortir à cette époque. Et qui passent à la radio.
Et les Zazous ont une prédilection notamment pour les premiers jazz américains et Django Reinhardt.
Ah ben évidemment, alors ils adorent le jazz, ils vont au concert, ils ont les moyens, c'est des fils de riches. Et puis il y a une scène que j'ai bien aimé décrire où ils vont voir Django Reinhardt, et il y a aussi des Allemands dans la salle bien sûr, alors qu'à cette époque les Tziganes, les Gitans, sont arrêtés s'ils veulent pas sédentariser et envoyés dans les camps de concentration. Et j'ai beaucoup aimé décrire toute cette scène avec cette nièce qui est Zazou. Et c'est là que la Madeleine lui dit « Alors, vous êtes toujours Zoulou ?»
Voilà.
Voilà. Non, Zazou.
Alors, Laurence, si tu le veux bien, on va...
Attends, je m'appelle Lola. Hein.
Ah, c'est Lola, pardon,
ouais.
Lapsus.
Ah ben ça,
peux...
c'est...
Alors, est-ce que tu
ça,
peux...
Ça montre qu'on se connaît depuis très longtemps.
Peux-tu expliquer pourquoi tu as changé de prénom?
Alors, vite fait comme ça, en fait, c'est une histoire qui est très profonde, puisque mon amoureux de cette époque est mort brutalement, et moi, j'étais complètement défaite, à moitié morte, on pourrait dire. Et on m'a proposé de louer ma maison, qui est une maison isolée dans le Houdou, à quelqu'un qui avait des chiens de traîneau, parce qu'il avait besoin d'être dans un lieu qui correspondait bien à ma maison. Et je me suis dit, avec l'argent du loyer, je pars, je vais me reconstruire. Et je suis partie en Inde pendant 5 mois avec mon sac à dos, à voyager toute seule. Et là-bas, il y a des petits Américains qui m'ont appelée Lola. Et j'ai senti que ça me faisait du bien de changer de prénom, de perdre ce R de Laurence, qui était dur, de repartir dans une vie nouvelle, parce que j'ai vraiment ressuscité en Inde. Quitter le lieu où on a été heureux, et quand on a perdu un ami, c'est la meilleure chose pour aller revivre, renaître en fait. Et tout le monde là-bas m'appelait Lola, vous savez, en Inde, vous demandez un crayon à quelqu'un tout le long du chemin pour aller acheter le crayon, tout le monde va vous dire « Hello Lola, hello Lola, hello Lola ». Donc moi, au bout de 5 mois, je m'appelais vraiment Lola. Et quand je suis rentrée, j'ai demandé à mes amis et j'ai commencé d'écrire sur mes affiches de spectacle Lola Simonin, et ça s'est fait très facilement.
Alors Lola, on va manger, nous, un morceau de gâteau de ménage.
Ouais. Hein,
c'est très...
Quelle rivière de où ton gâteau, il est bon, moi. Puis elle a mis du beurre, puis du sucre.
Je pense qu'il est bon et quelques caramels Klaus de la chocolaterie de Morteau.
Ah ben, tu parles.
Et puis on retrouve nos auditrices et auditeurs. nouvelle virgule musicale choisie par notre invitée Lola Semonin, dont les trois romans qui racontent la vie de la petite Madeleine Bobillier sont disponibles en librairie. Je rappelle donc le tome 1, 1925.
Donc ils s'appellent tous La Madeleine Proust, une vie.
Voilà, La Madeleine Proust, une vie, avec un sous-titre. Le tome 1, Quand j'étais petite, 1925-1939. Parce qu'il ne faut pas oublier que la petite Madeleine, elle est née des pieds en avant. Et la sage-femme a dit à sa mère, cette gamine, elle ira loin.
Oui, 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 ça c'est, j'aimais bien ce début. Elle dit, c'est vrai, parce que plus tard, je ne suis pas restée derrière les gras, je suis été habitée plus haut, à la ferme de Sur-le-Mont.
Le tome 2, Ma drôle de guerre, 1939-1940. Le tome 3, Sous la botte, 1940-1941. Et cet été, en août, le tome 4.
Et dernier,
qui couvrira donc
de 42
à la Libération.
À la Libération, voilà.
Lola, on mange notre part de gâteau de ménage et nous retrouvons nos auditrices et auditeurs juste après la pause musicale que nous leur proposons.
Elle est celle qu'on remarque, qu'on voit sans se retourner. C'est son parfum de marque qui fait d'elle reine des soirées. A le sourire qui frappe et le goût du franc-parler. De folles tenues qui claquent, le sang presque dévoilé. Je ne l'ai pas vue venir avec son air de refrain. Elle me parlait d'avenir et savait fort qui je serais. Me montrer comment vivre, ça sans devoir me cacher. Me disait désobéir que je finirais même par sucer. Elle fanera pas la rostatie, on l'accueille pas la rostatie. Ah, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris. Ah, elle me parle toujours de Piaf, de Dalida, elle vit à Montmartre. Puis me détaille toutes ses frasques, me dit de prendre toujours la vie la plus faste. Elle m'emmène là où l'on tape les cœurs sur du marbre ancien, dans des endroits où l'on rase le nu pour une bouchée de pain. Me fait descendre les étages pour monter sur le tremplin, où l'on plane jusqu'aux étoiles sans même penser à demain. Oui, je connais la fête, surtout celle de trop. Je crois qu'elle est à la tête de mes envies de trop. On finit à Barbès pour chanter sous le métro et tenir les distances de nos nuits au galop. Elle fanera pas la rostatie, on l'accueille pas la rostatie. Ah, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris. Ah, elle fanera pas la rostatie, on l'accueille pas la rostatie. Ah, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris. Ah.
Bonjour monsieur, ici de Préto. Comment allez-vous? Bon, c'est votre tati qui vous appelle. Une tati qui habitait Montmartre avant, tu le sais. Je te vois souvent sur Facebook, je te regarde souvent à la télé, je te suis et je suis toujours avec toi, je suis très content. J'espère que les soirées pour toi se passent bien. De toute façon, si je n'ai pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben, je te fais un gros bisou sur ce, et puis porte-toi bien, et puis bonne chance, et à très bientôt. Allez, je t'aime, Edith.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, eh bien écoutez, un grand merci, soyez les bienvenus. C'est Lola Semonin qui est en notre compagnie en cette fin de matinée sur Radion. On évoque effectivement le tome 3, Sous la botte, 1940-1941, donc l'arrivée de notre petite Madeleine Bobillier qui a quitté ses parents, ses sapins et la ferme familiale du Haut-Doubs pour devenir bonne à Paris sous l'occupation. Et Lola, il y a un épisode où effectivement le couple Vimet et la petite bonne Madeleine sont obligés de se rendre à l'abri dans la cave puisqu'il y a menace de bombardement, il y a une alerte.
Une alerte sur Paris, oui.
Je vais te demander, Lola, de nous lire un extrait de ce passage qui rend bien compte aussi des craintes, des souffrances de Parisiens qui ont quand même dû endurer l'occupation et un grand nombre de menaces, sans compter les coupures d'électricité, de gaz et le froid, parce que l'hiver a aussi été très rigoureux.
Alors, normalement, les gens vont dans le métro, mais là, on est dans un immeuble du 16e, très chic. Tout en descendant les escaliers, Madame Villemay n'arrêtait pas de gémir. « Oh, ces alertes, c'est épouvantable. Les uns nous privent de nourriture, les autres de sommeil. » Monsieur suivait, ses journaux sous le bras, aussi calme que l'eau d'un lac. Le tapis rouge étouffait le bruit des pas, mais dès qu'on arrivait à l'escalier en pierre de la cave, les semelles claquaient et le bruit s'amplifiait avec l'écho comme si on était poursuivi par toute une armée de boches. Je suis restée éberluée devant le tableau qui s'offrait à moi. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais là, devant moi, sous les 5 étages de l'immeuble. Dans la cave voûtée, aussi propre qu'une salle de bal, les propriétaires avaient aménagé un grand salon avec des tapis sur le gravier, des canapés et des fauteuils confortables, des meubles bourrés de couvertures et d'oreillers, un radiateur à gaz, la TSF et même un lit pour ceux du premier, des vieux osiers qui avaient bien 80 ans. Un salon pour riches en pyjama. Les robes de chambre étaient toutes plus chics les unes que les autres et tout ce qu'ils portaient, les toques en loutre, en astrakan, les gants fourrés de laine aussi douce que de la soie, même en vendant une vache, on n'aurait pas pu l'acheter. Et leurs pantoufles en mouton, on aurait pu les porter pour aller danser.
Merci Lola pour la lecture de cet extrait. D'ailleurs, il est question de gants de qualité supérieure qui coûtent très cher. Il faut dire aussi que c'est l'époque où on découvre d'autres usages. Hein. Il y a des gants en poils de chien ou des gants même en cheveux.
En cheveux. Hein.
Tout cela, c'est documenté dans ton roman et tu restitues toute une époque que nous n'avons pas connue, mais qui finalement n'est pas si lointaine que cela. Ça fait un peu plus de 80 ans quoi, maintenant.
C'est la petite histoire dans la grande histoire.
Tout à fait.
Aussi, cette saga.
Et c'est très très bien rendu, tantôt par le petit cahier dans lequel Madeleine, petite boniche, un peu comme Anne Frank, raconte ses petits secrets. Elle écrit des choses à son cahier. Il y a les lettres qu'elle reçoit, les lettres qu'elle écrit.
Les lettres de la Paulette.
Voilà, les lettres de la Paulette qui d'ailleurs sont ouvertes par la censure. Hein, Alors, autre, on en a déjà un peu parlé au cours de l'émission, mais on est en 1941 à Paris. Nous avons insisté sur la difficulté pour les Parisiennes et Parisiens, non seulement à se nourrir, mais surtout pour trouver de la nourriture. Et là, Lola, je t'invite à nous lire un passage dans lequel la petite Madeleine, cette petite paysanne du Haut-Doubs, entend... Alors qu'elle fait la queue pour faire le ravitaillement, elle entend des propos très désagréables sur le monde paysan que les citadins considèrent comme des accapareurs, des voleurs, des profiteurs qui préfèrent le marché noir plutôt que de jouer la solidarité alimentaire avec les Parisiens. Je te laisse nous lire ce passage.
Bien sûr, parce qu'il fallait de l'argent pour acheter au marché noir. Et au marché noir, les prix s'envolent. Et pour tous ces gens de Paris, qui en sont les responsables ? Les paysans, les ploucs, les pecnos, ceux qu'en prennent pour leur grade, c'est nous et encore nous les paysans. Ces malhonnêtes, ces égoïstes, ces voleurs qui gardent tout pour eux ou qui profitent du marché noir pour multiplier les prix. J'avais envie de crier que nous, les paysans, on ne vend rien au prix fort, ni aux habitants de Morteau, ni aux ouvriers de Sochaux qui viennent jusque-là pour des œufs, du lait, du beurre, en échange d'un tournevis ou d'une clé à molette. Que c'est pas nous, mais les revendeurs qui augmentent les prix. J'aurais aimé leur dire qu'ils viennent pousser la charrue pour labourer. Quand on nous a réquisitionné le cheval, les godillots enfoncés dans la terre, à faire des allers-retours d'un bout à l'autre du champ, en poussant de toutes ses forces sur le soc pour tracer les sillons bien droits qu'ils viennent faire les foins, debout au lever du soleil, à faucher pendant des heures, à râteler, à muler dans la chaleur étouffante et dans les piqûres des temps jusqu'à la tombée de la nuit et recommencer tous les jours, les muscles cuits, la peau tannée pendant plus d'un mois. Qu'ils viennent semer quand on nous a réquisitionné la moitié des semences, qu'ils viennent moissonner jusqu'à la nuit, porter les gerbes au bout de la fourche, battre en grange dans la poussière qui se fourre dans les cheveux, sous les habits et qui brûle les yeux, qu'ils viennent biner les choux et les rechausser, pliant en deux les reins cassés. Qu'ils aillent à pied jusqu'au moulin, à des kilomètres par des mauvais chemins, pour moudre le blé. Qu'ils se penchent sur la mets pour faire la pâte à pain, la remuent à plein bras, le dos brisé. Qu'ils viennent traire deux fois par jour les bêtes et racler le fumier, les pommes dans les champs, pendant des journées entières par tous les temps. Qu'ils viennent. Mais je ne disais rien. Je me faisais toute petite, toute honteuse.
Merci Lola. Voilà un passage qui rend hommage aux paysans et qui est une sorte de défense et illustration de la vie paysanne dans le Haut-Doubs. Parce que finalement, à travers ces trois romans, tu es l'ambassadrice d'une époque où la paysannerie était encore très répandue dans notre pays et qui vivait modestement en fournissant pourtant de très gros efforts physiques et moraux aussi.
Bien sûr, sans compter de tout ce que les réquisitions leur prenaient. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout le travail que j'ai fait pendant ces 40 ans, à la fois sur mes pièces de théâtre de la Madeleine Proust et sur cette saga, c'est un hommage au monde paysan et c'est aussi un hommage aux femmes. Ces femmes, la femme archaïque, la femme qu'on porte en nous depuis la nuit des temps, la femme qui a été mise au banc par les hommes, et la femme qui a toujours su se tenir debout, qui a su donner la vie entre la traite et la soupe, ces femmes qu'on a essayé d'éteindre dans l'histoire, et qu'on remet au grand jour petit à petit, heureusement, et ces femmes de paysans. C'est un hommage.
Lola, dans le tome 1 de La Madeleine Proust, une vie, quand j'étais petite, tu dévoiles une scène dans laquelle la petite Madeleine est victime d'abus sexuels de son oncle qui lui montre sa grosse limace rose.
Oui, qui le fait toucher.
C'est à la
oui.
fois grinçant. Pourquoi tu as voulu... Tu aurais pu en faire l'économie.
Ah non, mais pour moi, c'est indispensable. D'abord, moi, j'ai été agressée par mon grand-père et je ne connais pas une fille de ma génération qui n'a pas été agressée par quelqu'un de la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que les plus grands prédateurs sont les parents, les gens d'une famille. Le père, le grand-père, l'oncle, on le voit maintenant que la parole est libérée, on l'entend dans de nombreuses familles. Donc, ce n'était pas possible de ne pas en parler, d'autant qu'à cette époque, j'imagine les problèmes qu'il y a dû y avoir, que ces pauvres enfants ont dû taire, cacher, autant dans les séminaires où on envoyait ces petits-enfants à l'âge de 10 ans que dans ces grosses familles de paysans, et où il fallait se taire. Et on n'était pas cru. Donc c'était indispensable d'en parler.
Je voulais effectivement te poser la question.
Parce qu'en même temps, écrivain, je vois même dans cette saga, c'est quand même politique. J'essaie d'y amener d'autres points de vue. Il y a le frère Bernard qui va être communiste. J'essaie d'élargir, j'essaie de faire parler. Il y a l'instituteur aussi qui est communiste. Les communistes, à l'époque, ils veulent la paix. Les communistes sont contre la guerre.
Oui, tu reproduis d'ailleurs le discours de Maurice Thorez, ce fameux discours de la main tendue aux catholiques.
Voilà. Hein. Voilà, bien sûr. Donc, c'est aussi mon envie, mon devoir, ma nécessité d'aller explorer différentes formes de pensée pour ne surtout pas être dans une pensée unique qu'était celle à l'époque des gens de Vichy, avec la radio Paris qui donnait la propagande. Mais comme aujourd'hui, il y a une espèce de pensée unique d'une propagande qui est donnée par les médias. Et c'est pour ça que ça demande d'autant plus d'aller s'informer vers d'autres sources. C'est toujours le même problème dans la vie. Il faut élargir notre conscience. Il faut élargir notre conscience, il faut aller s'informer au plus large.
Dis-nous Lola, les paysannes et paysans que tu as rencontrés dans les années 80, alors que tu étais une jeune femme de 30 ans, sont-ils toujours en vie pour lire la vie de Madeleine dans tes trois romans pour l'instant, ou ont-ils quitté ce monde ?
Alors, bon, il y en a beaucoup quand même qui sont partis, mais je vois Claire Mougin, qui a été pour moi une référence, une amie. Je lui ai lu le tome 3 pratiquement tous les jours pendant le confinement. Le samedi, j'ai mis le point final, je lisais par téléphone. Et elle est morte le lundi. Comme si elle avait attendu la fin de ce roman. Et toujours, elle me faisait des remarques très judicieuses. Voilà. Et maintenant, j'en vois dans les dédicaces. Ou alors, on m'achète le livre, c'est pour ma maman qui a 95 ans ou qui a 102 ans, qui lit encore, qui vous connaît depuis le début, qui retrouve son époque.
Tu sais qu'on est pratiquement au terme de l'émission.
Ah, ben ça pourrait durer des heures.
Alors,
avec
on pourrait, sans doute la prolonger, bien évidemment. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que celles et ceux qui nous écoutent prolongent notre échange en allant se procurer tes romans en librairie. Je rappelle, La Maladie de Proust, une vie, tome 1, Quand j'étais petite, tome 2, Ma drôle de guerre, le plus récent dont nous avons le plus parlé aujourd'hui, Sous la botte 1940-1941, et puis cet été, au mois d'août, le quatrième tome qui va clore cette vie romancée de notre sympathique Madeleine Bobillet, qui plus tard deviendra Proust. Lola.
Voilà, je voulais dire si le budget est trop conséquent, puisque maintenant il y a 3 livres autour de 20 euros, on peut aussi les trouver en bibliothèque, et on peut lire aussi le tome 3 sans avoir lu les 2 autres, parce que je récapitule la situation, mais c'est vrai qu'on l'aime encore plus si on commence depuis le début, parce qu'on entre dans les premières fois de son enfance et on y est encore plus attaché.
Et puis il y a un glossaire, puis il y a aussi une bibliographie, donc c'est documenté, c'est sérieux, on se distrait, on est ému. Et on revisite l'histoire de France dans ses moments à la fois de gloire, mais aussi ses moments les plus sombres, les plus durs. C'est aussi un hommage qu'on peut rendre à nos ancêtres qui n'ont peut-être pas toujours eu la vie confortable et moderne qu'a été la nôtre ou qu'est encore la nôtre.
Bien sûr, c'est parfaitement résumé ce que tu viens de dire, ouais.
Et puis alors, moi j'ai relevé des tas d'expressions, je voudrais en citer quelques-unes là, ouais. Lola, si tu le veux bien.
L'accent alors.
Ah, je ne sais pas si j'ai... c'était pas de la ripompette ou de la gnognotte,
oui. Hein,
c'est de la petite qualité. Alors, il y a un moment, en dessert, Madeleine fait, pour sa patronne et son patron, elle leur fait des merdes de poule. Tu peux expliquer ce que
alors,
sont des merdes
Vimé
de poule.
Alors, Madame Vimé dit, que vous avez fait comme dessert, c'était délicieux. Des merdes de poule, madame.
Et en fait, ce sont des meringues.
Voilà, c'est des meringues, on les appelait comme ça. Et souvent, là par exemple, elle a fait je ne sais plus quoi avec des jaunes d'œufs. Donc, elle garde le blanc, on ne jette rien, on ne perd rien. Ça, c'est déjà dit et répété dans mes spectacles, pour faire ces meringues qu'on appelle des merdes de poule.
Alors, de quelqu'un qui perd la tête, hein, on dit il déménage du ciboulot ou il yoyote de la cafetière, de la puetche, c'est de la gadoue, de la boue.
Alors la puetche, c'est la boue, alors il y a énormément de mots, parce que je suis en train de faire un dictionnaire qui sera français comtois, parce que tous les dictionnaires qui existent, c'est comtois français. Et moi, pour colorer la langue de ces romans, j'ai dû me reconstituer un dictionnaire français comtois. Quand je voulais amener tout d'un coup un mot plus régional, eh bien, j'avais besoin de ce dictionnaire-là. Et alors, pour la boue, il y a la gadrouille, la vadrouille. Et les mots sont inventés tout le temps.
Ouais. Quand il neige fort dans le Haut-Doubs, il tombe des tatouillards gros comme des pièces de 5 sous. Puis alors, ouais. Une fois que nous aurons fini l'entretien, Lola, nous pourrons aller aux caquettes ou à la binette.
Ah là là, la première fois qu'elle demande les toilettes à Madame Vimé, il y a vraiment un gros malentendu. Mais pour conclure, quand même, je redirai cette phrase de la Madeleine Proust qu'on me demande toujours énormément en dédicace. Quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense et puis de ne rien dire.
Et puis, Madeleine est très logique aussi parce qu'elle dit souvent, dans tes spectacles qu'il vaut mieux mourir le soir que le matin, parce qu'on en apprend tous les jours.
Voilà, c'est ce qui arrivera aux lecteurs quand ils auront lu ma saga.
Lola Sémonin, je te remercie Lola, j'étais très heureux. Je te remercie de ton accueil
dans
ta belle ferme isolée ici dans le Houdou, parce que l'émission a été enregistrée dans le Houdou.
Oui.
Il ne neige pas encore, mais la neige arrivera d'ici quelques jours.
Moi, je te remercie Yannick et Radion. Déjà, c'est rare, malheureusement, qu'un journaliste me lise vraiment, lise le livre en entier. C'est ce que tu as fait. Et j'en suis très très heureuse. Et j'ai pas vu le temps passer. Et comme dit la Madeleine, le futur est passé, on s'en est même pas rendu compte.
Et je rappelle les titres des trois romans en attendant le quatrième qui sortira au mois d'août de cette belle et nouvelle année 2022 que je souhaite pleine de promesses, espérons-le. La Madeleine Proust, une vie, donc le tome 1. 1925-1939, l'adolescence de la petite
l'enfance,
Madeleine, l'enfance, l'adolescence rythmée par les saisons, le travail des paysans, puis aussi la vie dans ce qu'elle a de plus beau, la naissance, le baptême, la communion, les deuils,
l'incendie,
la cérémonie au monument aux morts le 11 novembre, cette France rurale qui ressuscite sous ta plume, le tome 2 « Ma drôle de guerre ». 1939-1940, le tout dernier sous la botte 40-41. Merci Lola d'avoir été la première invitée de ce wagon livre.
Merci
sur
Yannick, j'espère que ça apportera plein de joie pour commencer cette année.
Bonne lecture à nos auditrices et auditeurs. Encore merci Lola. Rendez-vous samedi prochain, 15 janvier, toujours à 11h sur Radion. On vous proposera un entretien avec la journaliste politique Catherine Ney, dont le tome 2 des mémoires vient de paraître chez Robert Laffont. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Lola et au revoir à vous, auditrices et auditeurs.